Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Avant de rappeler les titres, nous sommes très contents d'accueillir Alice Coffin qui publie Le génie lesbien. Il y a quelques semaines déjà, vous êtes féministe, écologiste, conseillère de Paris. Bonjour.
Bonjour.
On va essayer de vous comprendre. C'est jamais simple de comprendre l'autre. Convenons-en. On va essayer de comprendre l'activiste que vous êtes et ce que vous dites quand vous attaquez parfois durement les hommes et c'est perçu de telle manière.
Je suis là pour répondre aux questions.
Et vous allez dialoguer surtout avec les auditeurs comme Mathéo qui est déjà là, qui est étudiant en droit. Bonjour Mathéo.
Bonjour Mathéo.
Bonjour Pascal, bonjour Madame Coffin.
Est-ce que vous aimez le discours de Madame Coffin ?
Pas du tout, je suis à l'opposé et la raison m'oblige à dire que tout l'oppose à la raison dans ce que Mme Coffin dit, en tout cas.
Est-ce que vous avez lu son livre ?
J'ai pas lu son livre, mais ça fait depuis...
Ah, parce que moi, je l'ai lu et j'ai un peu, non pas changé d'avis, mais j'ai compris certaines choses. Mais on va en parler pendant une heure. Amandine.
Après trois semaines, après la rentrée scolaire, ça se confirme, un pas de flambée de l'épidémie de Covid, le nombre de classes fermées est même en baisse par rapport à la semaine dernière, 2366 contre 3299 il y a 7 jours. Le foot et le directeur général du RC Lens qui hausse le ton après les incidents de ces derniers jours. Il a conseillé hier, vous le savez, à ses supporters de ne pas se rendre à Marseille pour le prochain match dimanche et annonce désormais des sanctions contre les supporters qui se verront privés de plusieurs mois d'accès au stade. En tout cas pour ceux qui ont envahi la pelouse. On l'a appris il y a quelques minutes, le décès de l'ex-ministre socialiste Paul Quilès, disparu à l'âge de 79 ans. C'est sa fille qui l'annonce. Il avait été directeur de campagne pour François Mitterrand en mai 81, puis ministre de l'Intérieur et de la Défense. Notre météo, Valérie Quintin, on a encore du soleil cet après-midi. Attention, ça change demain.
Oui, ça va dès demain matin d'ailleurs, ça va tourner à l'orage de façon progressive par l'ouest. Toute la façade ouest sera concernée d'ici la fin de la matinée, puis le Limousin, le Languedoc et le Roussillon également. On pourrait avoir quelques averses également sur le sud-est dans le courant de la soirée. Mais pendant ce temps-là, dans le nord et dans l'est, certes, le soleil sera voilé, mais il sera quand même assez présent. La sensation sera globalement assez bonne. Les températures demain matin, fourchette de 7 à 18 degrés de Nancy à Bastia, 12 à Paris, à Grenoble, au Mans, 21 à 30 l'après-midi avec 23 degrés à Rennes, 25 à Reims, à Paris, à Strasbourg, 27 pour Clermont-Ferrand et Agen, 30 à Marseille et puis dimanche, en toute logique, on va retrouver ces mêmes orages dans l'est. Ils seront très forts d'ailleurs dans le sud-est. On va surveiller ce qui se passe par là dimanche soir. À l'arrière, un ciel de traîne, donc quelques éclaircies, quelques averses. C'est des températures qui restent élevées avec 23 degrés de moyenne pour la moitié nord et 25 pour la moitié sud.
On en profite aujourd'hui, donc merci Valérie.
Merci Amandine, il est 13h03.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Alors il y a plusieurs Alice Coffin forcément et il y a ces phrases parfois qui surprennent, qui choquent. Dans Le génie lesbien, je lis, les hommes tuent les femmes sans relâche, ils les violent sans cesse, ils les agressent, les harcèlent, les enferment, les exploitent. Lorsque certaines d'entre elles, les militantes féministes, pointent avec calme ou fureur à l'aide de chiffres et de récits cette annihilation, cette invasion psychique, une double protestation s'élève. Ne généralisez pas et n'exagérez pas. Mathéo, j'imagine que c'est parfois ce discours radical qui vous effraie.
Oh, il m'effraie pas. J'ai pas peur d'Alice Coffin, même si ce qu'elle dit peut sembler effrayant. Vous me demandiez juste avant si j'avais lu le livre d'Alice Coffin. Il suffit pas de le lire, juste le titre est scandaleux. Le génie lesbien. C'est une insulte à toutes les lesbiennes, tous les homosexuels qui se disent mon génie vient du seul fait que je sois lesbienne. Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que la sexualité, une fois passé le pas de votre porte, de chez vous, elle n'intéresse plus personne. Quand vous dites le génie lesbien, mais la portée de ce mot-là est terrible. Vous portez, vous, comme une grande défendresse, je vais féminiser tous les mots maintenant, des causes, des femmes, des lesbiennes. Mais vous réduisez leur état au simple fait qu'elles sont femmes et lesbiennes. Mais vous savez, moi, des femmes fortes, des lesbiennes, des homosexuels forts, j'en connais plein. Mais jamais je leur ferai l'offense terrible de dire « Oui, mais si tu es comme ça, c'est parce que tu es une nana et que tu couches avec une nana ou que tu es un homme et que tu couches avec un homme. »
Alors Alice Coffin vous répond.
Oui, Mathéo, bah merci pour les observations. Je ne suis pas tout à fait d'accord, évidemment. Le génie lesbien, pourquoi je dis ça? Parce que précisément, je crois qu'être lesbienne, ça n'est pas seulement une question d'orientation sexuelle, si vous voulez. Moi, je ne suis pas lesbienne juste en fonction de mes désirs. Et heureusement qu'on n'est pas défini uniquement par la personne avec qui on a envie de coucher, que ce soit des hommes, des femmes. Et je pense que c'est pour ça, si vous, c'est plus développé dans le livre que je vous invite à lire, que le fait d'être lesbienne dans cette société-là, c'est bien plus que simplement désirer faire l'amour avec des femmes, être amoureuse de femmes. C'est aussi s'opposer à tout un système, parce que vous voyez, dans cette société, en fait, tout est construit depuis longtemps pour que ce qu'on appelle l'hétérosexualité, donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, soient destinés, voués à vivre en couple, à se reproduire, et que ça soit l'unique modèle. Et c'est très bien que ce modèle-là existe. En revanche, il y en a d'autres. Et pour les lesbiennes, c'est particulièrement fort, plus d'ailleurs de manière différente que pour les hommes gays, par exemple. C'est pas tout à fait pareil, parce que pour les lesbiennes, le fait qu'on se dit « je vis avec une femme », vous savez, c'est quelque chose de très transgressif encore. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué à toujours, on dit encore « le chef de famille », à ce que
moi,
ça soit les
sentiment.
Hommes.
J'ai pas ce sentiment.
Dites-moi,
que
Pascal.
Soit, j'ai pas ce sentiment que ce soit transgressif.
Ah bah, je vous assure que pourtant c'est dur.
Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que je veux pas dire que c'est même plus un sujet parfois, notamment dans la jeune génération, mais j'ai pas ce sentiment. Mais peut-être est-ce que je me
vous
trompe.
Vous savez, les agressions contre les lesbiennes, par exemple, le dernier rapport qui avait été fait, on avait augmenté de 42%. C'est beaucoup.
Mais la généralisation, et ça m'a amusé parce qu'on reproche à Éric Zemmour de dire les musulmans et de généraliser. Bon, et vous, je trouve que vous dites la même chose avec cette phrase que j'ai lue tout à l'heure. Les hommes tuent les femmes sans relâche, ils les violent sans cesse, ils les agressent, les harcèlent, les enferment, les exploitent. Les hommes.
Alors, les hommes, ça ne veut pas dire chaque homme et ça ne veut pas dire tous les hommes. Là, le discours, je sais que vous y êtes attaché à la langue française. Les articles définis ont un sens. Par exemple, si je vous dis, si vous regardez l'actualité du jour, je crois que si vous regardez un peu les titres, vous aurez « Les Français boudent les distributeurs ». Bon, ça ne veut pas dire « chaque Français ». On ne va pas dire « ah bah moi non ». C'est un discours qui explique quoi ? Qui explique que justement, ce n'est pas de la responsabilité de l'individu. Ce n'est pas chaque homme en particulier. Je ne suis pas en train de dire « parce que tu es un homme, tu es coupable ». Pas du tout. C'est justement d'expliquer, quand on généralise, pour pouvoir dire « c'est un système qui fait qu'on est dans un système où les petits garçons, les représentations d'éducation, de ce qu'on voit au cinéma, à la télévision, font qu'on place le masculin, les hommes de manière générale, dans une certaine situation par rapport aux femmes. Mais c'est bien pour expliquer justement qu'il s'agit d'un système. Et quant au fait de dire que c'est encore extrêmement fréquent, mais tout ça est très chiffré dans le livre, je veux dire, il y a encore par jour 137 femmes qui
dans le
meurent
monde, c'est
dans
ce
le
que
monde.
Vous dites.
C'est énorme, je ne sais pas. Donc on ne peut pas quand même... Qu'est-ce qu'on en fait de ça ?
Il y a aussi, la nature humaine qui est parfois horrible et que nous sommes 8 milliards et qu'effectivement, certains hommes, en l'occurrence 137, arrivent de Néandertal et ont une force visiblement qui s'abat sur les femmes. Est-ce que... Moi, c'est la généralisation qui me
Mais comment vous expliquez, par exemple, c'était le grand titre du journal Le Monde il y a quelques semaines, 96% des crimes d'inceste sont commis par des hommes. Pourquoi, à votre avis ? C'est pas chaque homme qui est responsable, mais pourquoi on en est là ?
Ah non, mais que tous les violeurs soient des hommes, c'est évident ou quasiment évident. Mais tous les hommes ne sont pas des violeurs.
Mais non, mais bien sûr. Mais comment vous expliquez ça n'a pas à voir avec un système, avec des représentations, une éducation, un ensemble
systémique. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux
pas. Le livre essaye d'y répondre. Justement, il y a des recherches.
Je ne sais pas si c'est dans la nature des hommes d'exploiter leur force de cette manière-là, ou est-ce la culture à travers tous les siècles. Mais je ne peux pas répondre à cette question.
C'est pas dans la nature. C'est précisément ce qui a été construit, et c'est ça que les féministes essayent de déconstruire depuis très longtemps.
Alors, on va en parler dans une seconde. Ce qui est implacable, en tout cas, et on va revenir, c'est lorsque vous égrenez les prix pour les Césars, les Goncourt, les places importantes, le caca. Alors ça, c'est implacable. Alors là, il y a pas de femmes, ça. C'est factuel et c'est une démonstration magnifique. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Pascal Pro,
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Stéphane est avec nous, elle est féministe, écologiste, conseillère de Paris. Pour tout dire, j'adorerais mener une interview seule avec Alice Coffin, mais ce n'est pas le principe de l'émission, c'est les auditeurs ont la parole. Mathéo va vous répondre. Simplement, Mathéo, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment fait réfléchir. Alice Coffin va à l'Élysée rencontrer Emmanuel Macron, et puis vous êtes activiste, donc vous bougez un peu, et Emmanuel Macron dit « vous ne respectez pas la République ». Et vous, vous répondez une phrase qui est juste, mais c'est la République qui ne me respecte pas en tant que lesbienne, vous, citoyen hétérosexuel, vous avez plus de droits que moi. Ça, c'est une phrase qui doit faire réfléchir.
Bah oui, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mathéo, vous vouliez...
Mathéo, qu'en pensez-vous de cette phrase ?
Mais non, je suis encore pas d'accord pour faire dans l'originalité. Comment, lorsque...
Parce que c'est sur la PMA, bien sûr, hein, quand Alice Coffin dit « j'ai pas les mêmes droits que vous », elle parle de la PMA et de la GPA.
Mais après, ça rejoint des convictions personnelles. Mais la PMA et la GPA, malheureusement, ça ne concerne même plus les homosexuels. Ça ne concerne même plus la cause lesbienne, si tant est qu'on puisse considérer ça comme une cause. Ça concerne l'humain, simplement. Et lorsque l'on vient aller produire des choses qui sont biologiquement permises par les progrès de la science et qui, à mon sens, hein, altèrent un courant, je vais dire, naturel des choses, ça devient grave. Il ne s'agit plus d'octroyer un droit d'avoir un enfant.
Le courant naturel des choses, la médecine, c'est le principe de la médecine. Hein, je veux dire, de quand on soigne quelqu'un, on arrête parfois le courant naturel des choses, si vous me permettez.
On le soigne, Pascal. On le ramène à l'état normal de quelque chose qui a altéré son système. Mais lorsque l'on va permettre quelque chose qui n'est pas normal, si tant est pareil que normal puisse être utilisé de nos jours, eh bien là, oui, non, ce n'est pas bon, je pense, dans le courant normal de l'humanité.
Vous êtes d'accord que, oui, la PMA, au moment où je dis ça à Emmanuel Macron, c'est en 2018, c'était autorisé pour les personnes hétérosexuelles et pas pour les personnes lesbiennes. Donc vous voyez la discrimination. Au-delà de la question, vous pouvez, pour des raisons qui vous appartiennent, ne pas être d'accord sur le principe de de la procréation médicalement assistée, soit. Mais là, vous êtes d'accord qu'il y avait une discrimination manifeste.
Mais non, la discrimination, mais non, à mon sens, elle n'existe pas parce que il s'agit juste de permettre à des gens qui ne peuvent pas et qui en temps normal pourraient avoir d'en avoir. C'est là où c'est la discrimination disparaît complètement.
Alors on va être avec Victoire. Victoire qui a 19 ans, donc c'est intéressant parce qu'elle incarne la jeune génération, elle est Aix-en-Provence, donc vous êtes étudiante. Est-ce que vous vous reconnaissez en tant que femme dans le discours d'Alice Coffin ? Bonjour Victoire.
Bonjour Pascal, bonjour Madame Coffin.
Bonjour Victoire.
Je rejoins sur certains points Madame Coffin, sur tout ce qui est donc, pour dénoncer le sexisme, combattre les violences sexuelles, conjugales ou encore des inégalités salariales. Mais après, malheureusement, sur certains points, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous proposez dans votre livre. Alors, je suis comme Mathéo, je n'ai pas lu votre livre. Mais je me suis permise quand même de regarder quelques phrases de votre livre qui étaient ressorties sur les réseaux. Et d'ailleurs, je suis désolée pour tout l'acharnement que vous avez pu recevoir ce dernier mois.
Merci, c'est gentil pour le soutien.
Mais sinon, non, quand je reprends certaines de vos phrases, comme « il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer », je trouve que c'est des phrases un peu chocs.
Les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Alors ça, c'est...
Voilà. Bon.
Est-ce qu'il y a une part, effectivement, d'activisme là-dedans ?
Oui, bien sûr. Il y a une part, enfin, sur la façon... C'est un livre. Hein. C'est pour ça, quand les auditrices disent « j'ai pas le livre », c'est compliqué de les extraire. C'est-à-dire, c'est un exercice, un livre, c'est un exercice littéraire aussi. Donc, quand on en extrait une phrase, on n'a pas l'ensemble du raisonnement, le moment où ça arrive. Et effectivement, le ton, la force... Moi, mon but, c'est, je le dis au départ, c'est un livre de combat aussi. Donc, le but, c'est de changer les choses. Donc, effectivement, d'avoir des formules qui, parfois, sont assez chocs, néanmoins, qui reflètent toujours absolument mes convictions. Alors là-dessus, Victoire, j'entends, mais vous voyez, la déformation qui a été faite des propos, où moi, je retrouve, y compris sous la plume de 10 personnes censées être des intellectuels, tout ça, qui disent « elle veut éliminer les hommes ». Mais je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais dit que je voulais tuer le moindre homme. Je suis bien incapable de la moindre trace de violence, je vous assure. En revanche, ce que je dis, c'est que quand, comme moi, comme vous peut-être un peu moins, parce que vous êtes plus jeune que moi, on passe son enfance, son adolescence à l'école, par exemple, ne lire que des livres d'hommes, de voir des films essentiellement réalisés par des hommes. Bon, bah, il y a un certain état d'esprit de certaines représentations du monde qui s'imposent à nous, et c'est bien, bah, de se permettre, de permettre à son imaginaire de s'offrir d'autres choses, d'autres représentations. On en sortira seulement enrichi, tout c'est
bon,
tout.
Victoire, vous allez pouvoir répondre dans une seconde, il est 13h18, c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'essayer de comprendre. Mmh. Voilà, c'est un peu la base de notre métier. Et après, chacun se fait son opinion une fois que les arguments ont été échangés. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Victoire qui répond à Alice Coffin et qui argumente peut-être. Victoire.
Oui, donc pour reprendre ce que vous disiez sur les écrivains ou toutes les personnes qui nous entourent lors de notre éducation à l'école. Bah, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Zola ou tous ces Albert Camus, c'est en même temps la culture française, c'est l'histoire de la France et on s'appuie sur ces personnes aussi pour après devenir plus tard, comme vous disiez, des intellectuels ou autres. Donc ça, c'est un fait. Et après, il y a d'autres personnes, comme par exemple Simone de Beauvoir, qui écrit extrêmement bien et qui a fait bouger les choses. Donc on peut lire ce qu'on veut. Après, ça dépend bien sûr des écoles où on va ou autres. Mais après, pour revenir sur votre livre et le combat que vous menez, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, le fait que vous parlez de féminisme et de rassembler, et en fait, pour moi, ça crée plutôt une séparation. Vous voulez presque une suprématie, alors que pour moi, le féminisme, c'est pas vouloir la suprématie, c'est vouloir l'égalité homme-femme. Et c'est ce qui me dérange, parce que votre combat, il pourrait être, pour moi, beau et loyal. Aujourd'hui, voilà, ce qui est dérangeant, c'est qu'on doit aller dans le même sens. Et vouloir l'inégalité, on a eu énormément de discriminations sur des droits qu'on n'avait pas avant. Alors pourquoi devoir faire survivre
Alice
aujourd'hui
Coffin, les hommes?
Non, je vous mets. Merci Victoire pour les commentaires. Je vous mets vraiment au défi de trouver un propos dans lequel je dirais que je souhaite la suprématie des femmes. C'est pas du tout ça. Et c'est assez intéressant comme on renverse les charges en fait. Qu'est-ce que disent les féministes? Qu'est-ce que je dis? C'est que par rapport à une différence, à une suprématie, vous me l'accorderez, qui a été posée pendant des siècles des hommes, c'est factuel là ce que je dis, hein, qui avait des droits que les femmes n'avaient pas, qui avait accès à des positions auxquelles les femmes n'avaient pas accès. Nous simplement, on essaye de rééquilibrer ça, de renverser ça. Donc, par quel miracle en fait, comment c'est possible que ça soit nous qu'on accuse finalement de porter cette suprématie? Pas du tout. Je cherche.
Oui, mais vous les aimez pas beaucoup les hommes, par exemple. Quand vous écrivez, qu'ils sachent, les hommes, que celles que j'entends chaque jour sont des variations autour de la formule de Valérie Solanas dans le Scum Manifesto. Les hommes sont des Midas d'un genre spécial. Tout ce qu'ils touchent se change en merde.
Mais non, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est... Non, mais allez écouter les jeunes, les femmes, tout ça, qui peuvent en avoir un tout petit peu ras-le-bol de comportement de leurs copains et tout ça. Pas méchant, elles vont pas le dire, mais que quand même... Réveillez-vous un peu, c'est
tout
ça qu'elle leur dit.
C'est-à-dire
que c'est
un peu change plus. En merde. Il y a peut-être des aspects
ça, c'est
positifs.
Solana,
c'est... vous êtes marrant, vous le reprenez pour vous. Alors là où vous êtes implacable, en revanche, et ça, Victoire, c'est extraordinaire comme démonstration. C'est lorsque vous parlez de Toni Marshall, qui est la seule réalisatrice à avoir été couronnée au César. Lorsque sur les festivals, au Festival de Cannes, la seule Palme d'Or, c'est Jeanne Campion. Lorsque les prix Goncourt, il y a 4 femmes, je crois, en 100 ans. Le président de l'Assemblée nationale, jamais une femme. Le Premier ministre, une fois une femme. Le CAC 40, pas une femme. Ça, c'est terrible, effectivement, même si ça peut changer. Mais vous avez une explication de ça?
Mais c'est, l'explication est toujours la même, c'est-à-dire que ça, c'est lié avec l'ensemble de ce qui est illustré dans le livre par les théories féministes. C'est la façon dont on conçoit notamment le pouvoir, que le pouvoir, ça doit être incarné avec certaines compétences, certaines attributs qui sont alloués aux hommes. Et je pense que tant qu'on sort pas de ça, on sort non
mais
seulement
ça bouge
pas
quand
de la
discrimination,
mais bien sûr que ça bouge.
Ça bouge parce qu'il y a aussi, disons-le, des femmes qui ont bien compris combien elles pouvaient, entre guillemets, jouer du fait d'être une femme et d'avancer grâce à cela aujourd'hui dans notre société. Avouons-le aussi.
Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pas seulement une question de... À force, ça va être très très lent si on attend comme ça. Je pense que ça pourrait se renverser, qu'on pourrait finir par avoir des présidentes. Ou... Mmh. Mais c'est pas ça qu'il faut changer. C'est les structures, parce que si c'est pour que les femmes refassent exactement les mêmes choses au poste de pouvoir, ça va être compliqué aussi.
Mais alors là, les structures, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est quoi changer une structure?
C'est exercer différemment le pouvoir. Vous pouvez écouter Sandrine Rousseau en ce moment qui vous explique. On en a marre, d'une part, d'être dominé, mais on en a marre de dominer aussi. C'est-à-dire de changer de ce rapport-là au monde. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un rapport dominant dans mes rapports.
Mais Sandrine Rousseau, par exemple, elle dit qu'elle est avec un homme déconstruit. C'est quoi un homme déconstruit? Non, mais vous riez. Moi, je voudrais bien savoir ce qu'est un homme. Est-ce que je suis déconstruit, moi?
Non, mais moi, je dois pas. Pascal, je pense qu'il y a encore un peu de chemin.
Bon, alors tant mieux. Je suis pas.
Non, mais vous voudrais savoir. Vous avez lu le livre.
Mais je voudrais savoir ce qui est déconstruit.
Mais franchement, le fait que vous voyez que vous m'ayez invité et que vous ayez lu le livre, ça veut dire il y a une démarche de connaître, d'apprendre, d'essayer. Eh bien, vous, c'est pas le cas de tout le monde.
Mais tous les pères font ça, essayent de comprendre.
Ils en parlent sans savoir. C'est-à-dire que la plupart du temps, moi, c'est ça qui m'agace. C'est-à-dire que je veux bien discuter. Moi, je suis toujours dans vraiment une volonté de conversation. En revanche, ce qui me choque, c'est que moi, je connais les écrits de M. Finkielkraut, les écrits de tout ça. En face, il n'y a pas d'effort. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'effort pour lire aussi ce que les féminismes ont produit depuis des années? Pourquoi il n'y a pas cette réciproque? Pourquoi est-ce qu'on, nous, on connaît par cœur toutes ces œuvres-là? Parce qu'on nous a nourris avec et parce qu'il y a une courtoisie à faire de lire l'autre. Moi, je connais ces ouvrages-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une méconnaissance, une ignorance sur ces questions-là?
Alors, Fouad, parce que les auditeurs, bien sûr, hein, je disais tout à l'heure, moi, j'aimerais bien ne parler qu'avec vous, mais les auditeurs. Bonjour Fouad, vous nous écoutez.
Oui, bonjour.
Que pensez-vous de nos échanges?
Ah, j'écoute attentivement depuis tout à l'heure. Il y a deux choses que je remarque. C'est premièrement que finalement, Madame Coffrin est beaucoup plus nuancée à l'oral qu'à l'écrit. Et ça m'amène au deuxième point. C'est quelque chose que je regrette. C'est que finalement, c'est un peu une représentante de l'archétype actuel où des personnes qui ont envie de défendre des combats, des causes qu'on peut trouver justes ou non, se sentent obligées de créer des antagonismes. C'est-à-dire, on est toujours être forcé d'être dans la dénonciation. Quand quelqu'un veut défendre la culture française, ils se sentent forcés de dénoncer les salauds d'immigrés. Quand quelqu'un veut défendre les classes populaires, ils se sentent obligés de dénoncer les salauds de riches. Et là, on se retrouve avec une personne qui, même si elle s'en défend, même si effectivement, comme je dis tout à l'heure, depuis qu'en discutant, on se rend compte que c'est peut-être plus nuancé que ce qui a pu être écrit, elle se retrouve finalement à dénoncer les salauds d'hommes pour défendre les homosexuels ou les femmes, ou un peu les deux. Et ça, c'est quelque chose qui...
Quand est-ce que j'ai parlé de salauds d'hommes?
Alice Coffin va vous répondre. Elle va vous répondre après la pause. Voilà. Après la pause, à tout de suite. C'est passionnant, notre discussion est passionnante. J'ai donc compris que j'avais encore du chemin à faire, mais que je suis sur la bonne voie. Mais il faut que je me déconstruise encore un petit peu, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il est 13h30, donc Fouad interpellait Alice Coffin et lui disait, au fond, vous dressez les hommes contre les femmes. C'est un peu ça que vous disiez. Vous créez des barrières.
Donc, des antagonismes. Ouais.
Des antagonismes, exactement. Alice Coffin vous répond.
Oui, alors Fouad, déjà, je crois que vous me disiez, vous êtes plus nuancé à l'oral qu'à l'écrit. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que vous avez eu accès à des propos tronqués du livre, donc et caricaturaux, qui sont typiques, en fait, c'est assez intéressant de pourquoi est-ce qu'on se permet, je vous assure, ce qu'on ne se permettrait pas sur d'autres types de livres, sur d'autres types. Pourquoi est-ce que comme ça, on se permet de déformer absolument des propos? Et ça a à voir avec la question de cliver et des antagonismes. Vous voyez, moi, je crois qu'en politique, en ce moment, par exemple, c'est pour ça que je reviens à Sandrine Rousseau aussi, on dit beaucoup qu'elle clive. Et bien, je pense justement qu'il y a besoin, ça fait très longtemps, par exemple, qu'on n'a pas eu en France un discours d'une gauche décomplexée, qui soit vraiment de gauche, qui soit vraiment écologiste, qui soit vraiment féministe, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais au moins c'est dit, au moins on en parle, au moins on peut offrir que cette offre politique figure. Donc moi, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'être d'accord avec moi, mais au moins je pose les choses. Et c'est pas un antagoniste, c'est pas vrai, parce que vous voyez, je suis là aujourd'hui. J'ai toujours accepté les conversations, j'accepte toujours de discuter, toujours, toujours, sauf, vous voyez, pour des personnes, j'étais pas contente avec des journalistes de Valeurs Actuelles qui ne respectent pas certaines vérités factuelles, qui ont fait des déformations. Mais sinon, je suis absolument toujours pour la conversation. Donc c'est pas vrai que je pose des antagonismes. En revanche, je dis que bah oui, il faut être capable de formuler certaines oppressions, certaines dominations, parce que ça commence par le langage, tout ça. Vous voyez tout ce qui se passe sur les murs, tous les collages féministes. C'est intéressant que ça passe par les mots, que ça passe par le langage. C'est très important pour qu'on puisse après bah, mener les luttes, les combats qui s'imposent.
Alors vous êtes écologiste conseillère de Paris et vous soutenez Sandrine Rousseau. Je parlais du nucléaire, c'est compliqué aussi puisque Sandrine Rousseau, elle souhaite sortir du nucléaire. Je rappelle que le nucléaire est une énergie qui est moins chère, qu'il n'y a jamais eu une centrale nucléaire en France qui a posé un souci, qu'on paye notre électricité meilleur marché et que je vois pas comment on peut s'en sortir sans le nucléaire. Mais bon, on va pas entamer ce débat là. En revanche, je vais parler.
Sandrine pour en parler.
Voilà, je vais vous parler quand même parce que les hommes, vous, quand même, vous les aimez pas beaucoup. Je vous assure, vous les aimez pas beaucoup. Voilà ce que vous écrivez. Alors, vous allez régulièrement entendre sur les chaînes info et puis vous êtes invité. Alors, vous êtes la seule à ce moment-là qui est dans une loge et puis vous êtes avec des hommes. Et voilà ce que vous dites. Je suis alors dans cette pièce la seule femme, la seule lesbienne, la seule à plancher jour après jour depuis des années sur la PMA. Je suis aussi pendant ce temps d'attente la seule à bosser, à réviser mes chiffres, à préparer des notes. Certains parmi les hommes invités n'y connaissent rien, mais cela ne les affole pas. Ils devisent, balancent une idiotie sexiste dans les ascenseurs ou les couloirs qui nous mènent au plateau. Ça pue la testostérone, cette odeur d'assurance et de fainéantise mêlée, de mépris et de bêtises mélangées. Jamais je n'oserais agir comme ils le font. Eh bien, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Vous avez raison. Moi, je les connais, les hommes, et je pense qu'hélas, vous avez raison. Et souvent, effectivement, les femmes travaillent
mais
plus.
Mais elles travaillent.
Mais je ne peux que le dire parce que je le constate.
Voilà,
parce que sur mon plateau, je le constate. Et les seuls qui m'appellent avant les émissions pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ton émission, c'est les femmes. Qui me disent c'est quoi le programme demain, etc. Les hommes, jamais. Donc je suis obligé de dire. Alors après, bon, vous dites, vous les aimez pas quand même, parce que vous dites.
C'est pas une question d'affectif.
Cette pourquoi odeur d'assurance, cette fainéantise.
Ouais, non, ça c'est une forme. Alors encore, c'est littéraire. Et comme vous me reprochez de généraliser tout à l'heure, vous pouvez dire les hommes, vous les aimez pas. Non, c'est des constats, c'est des mécanismes.
Ah, si vous les aimez pas,
c'est
beaucoup,
des mécanismes.
Quand même. Et d'ailleurs, c'est une vraie question
qu'on demande aux féministes.
Est-ce que vous
tout
aimez
temps.
Les femmes ou est-ce que vous haïssez les hommes?
Alors, mais ni l'un ni l'autre, c'est vraiment, enfin si j'aime bien les, j'ai une sympathie de manière générale pour les femmes, c'est vrai, parce que je pense que c'est extrêmement dur dans cette société pour elles. Après, c'est pas du tout une question de haine pour les hommes. Pourquoi vous ramenez toujours le truc à l'émotion? C'est une question d'expliquer des mécanismes.
Bah, attendez, qui dites ça pue la testostérone, hein,
oui,
franchement,
non, mais
c'est
attendez,
pas moi. Hein.
Si vous...
Cette odeur
mais
d'assurance, cette fainéantise mêlée.
Pourquoi avoir toujours besoin d'être rassuré? Si vous avez une grève, par exemple, entre des salariés, des ouvriers et un patron, je vous jure, on ne demande pas aux salariés en disant mais. Pourquoi vous les aimez pas les patrons? Pourquoi vous les aimez pas? C'est pas le sujet. C'est un sujet de lutte. C'est un sujet.
Mais non, mais moi je vous pose parce que
sociale.
J'ai lu ça.
Mais
je trouvais que ça, il y avait quelque chose de l'ordre de l'émotion dans ce que je lisais tout à l'heure.
Non,
en tout cas,
moi
sentiment en tout cas.
Les seules phrases d'émotion, qu'il peut y avoir par rapport, c'est ce que je peux raconter sur mon père, ou ce que je peux raconter sur mes frères, tout ça. Mm. Bah, je sais pas, au quotidien, vous voyez, je vis, c'est presque bizarre d'avoir à s'en justifier, quoi. Mm. Et, je le dis au début, j'ai pas de traumatisme personnel du tout.
Thierry
du tout
est avec nous. Thierry qui habite la Charente, qui nous écoute aussi et qui va pouvoir vous interroger. Thierry.
Bonjour Pascal, bonjour,
bonjour
votre invité.
Bonjour.
Alors déjà, on a un point commun tous les deux avec votre invité, c'est qu'on aime les femmes.
J'aime wow. J'ai horreur de cette phrase.
Oh,
franchement, je la trouve terrible.
Ouais,
j'aime les femmes, ça c'est... Pardonnez-moi, mais ça, je fuis ça pour le coup, parce que... Bon, et puis allez. Pourquoi pas j'aime la femme aussi
pendant qu'on est... Non, on va revenir.
Non, ça c'est pas possible.
Je trouve qu'on stigmatise beaucoup là, dans tous les propos, autant d'un côté que d'un autre. Mmh. C'est factuel. Il y a des choses qui sont plus habilitées aux femmes qu'aux hommes et réciproquement. Je m'explique.
Ça commence mal.
Travail. Non, il faut être clair. Alors qu'on évolue.
Les femmes à la cuisine et les hommes.
Non,
je vais dire au travail.
Je n'ai pas dit ça. Je prends l'exemple par exemple. Mes enfants sont dans une école. Mmh. Toutes les classes, de la petite section jusqu'au CM2, ce ne sont que des maîtresses. Ça se passe extrêmement bien. Je n'ai pas vu d'hommes manifester devant l'école en disant on veut les qualités des sexes, on veut des hommes dans les classes à la place des maîtresses. Dans le
qu'est-ce que vous voulez dire
normal, parce que c'est pas bien payé.
Ouais.
Vous voyez,
qu'est-ce que vous voulez dire
ce que je veux dire, c'est que on dit que les femmes sont mal vues au niveau professionnel, elles sont toujours au bas de l'échelle, elles sont moins classées que les hommes. Et c'est factuellement, tout à l'heure, quand vous parlez du CAC 40 ou de la télé ou du cinéma, oui, on le voit, mais rien ne les empêche d'être à la tête d'une société. Je ne vois pas des hommes faire barrière à la progression d'une femme professionnellement.
Ah, ça c'est intéressant. Votre question est intéressante. Est-ce que les hommes se liguent
sur des actes et sur les valeurs d'une personne pour diriger une société ou un service?
Alors, on va répondre à cette question après la pause, mais ça c'est intéressant. Est-ce que les hommes se liguent entre eux pour empêcher l'évolution d'une femme? Par exemple, dans la finance, c'est intéressant, il y a très peu de femmes dans la finance, et effectivement, il n'y a pas de femmes, nous sommes d'accord, à la tête du CAC 40, quoi, dans une entreprise du CAC 40. Donc, est-ce que les hommes se liguent? Et pourquoi? Parce que effectivement, on dit souvent que les femmes réussissent des études meilleures statistiquement que les hommes, hein, et elles n'accèdent pas aux postes de responsabilité. Donc ça, c'est une bonne question, et Alice Coffin vous répond.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alice Coffin est avec nous depuis 13h. Elle est féministe écologiste conseillère de Paris. Vous la découvrez peut-être et peut-être, non pas changez-vous d'avis, mais voyez-vous davantage de nuances dans ce qu'elle nous dit aujourd'hui que l'image qui est véhiculée parfois à travers une phrase, deux phrases qui sont pourquoi pas sorties de leur contexte. Alors, Thierry posait une question vraiment intéressante. Est-ce que les hommes se liguent entre eux pour garder leur pouvoir?
Alors, merci Thierry pour la question. Je pense que, je sais pas s'il faut dire se ligue, mais en tout cas, on dit souvent se coopte, disons, plutôt. C'est-à-dire que c'est le phénomène des réseaux masculins, du fait de pouvoir s'appeler, s'entraider. C'est qu'on le voit, hein, moi je fais partie d'un groupe d'action féministe qui s'appelle La Barbe, et quand on arrive au début de grandes séquences, de grosses boîtes, du CAC 40, ou dans des festivals culturels, on les voit, ils sont entre eux, ça se tape dans le dos, ça va mon vieux, bonjour mon vieux. Donc, c'est des phénomènes de sympathie. Bien sûr que oui, qu'après, ils vont davantage se choisir entre eux, bien entendu. Que ça vous aide à faire un marche-pied là-dessus. Et puis par ailleurs, c'est pas
mais parce qu'ils trouvent peut-être que c'est plus simple de travailler avec un homme, parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement forcément d'une femme, parce qu'ils peuvent être intimidés. Il y a plein de raisons, vous savez, qui peuvent... intimidé,
oui. Je suis d'accord avec
vous. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont dit, moi, je suis très ennuyeux. Ça m'est très difficile de travailler avec une femme parce que je suis assez directif, je suis assez brutal avec des hommes et je pourrais pas avoir ce type de management avec des femmes.
Mais vous avez la réponse à votre question. Donc, ils vont davantage pouvoir se coopter entre eux. Et puis après, Thierry, dans l'accession des femmes au poste de pouvoir, c'est vraiment beaucoup plus large. Hein, c'est-à-dire qu'il faut la question professionnelle, qui je pense est quand même centrale, la question salariale qui est centrale, c'est aussi les doubles ou triples journées des femmes qui les empêchent, qui les handicapent par rapport à leurs collègues masculins. C'est les questions de harcèlement sexuel au travail qui sont pas juste du harcèlement sexuel, qui fait qu'après vous ne pouvez pas développer vos propres facultés. Enfin, c'est un ensemble, je vais pas tout développer ici, mais tout ce qui joue en fait de manière générale en termes de sexisme dans la société, on va le retrouver dans la sphère professionnelle et ça va expliquer ce gros différentiel en termes d'accès au poste de pouvoir.
Alors, j'ai quand même le sentiment à travers des témoignages qu'en 2021, c'est pas la même chose qu'en 1975 et que la place des femmes notamment dans le travail est extrêmement différente de ce qu'elles pouvaient l'être. Quand j'entends nos mères parler de la manière dont elles étaient traitées quand elles ont commencé à travailler dans les années 60-70, c'est vrai que les choses sont différentes aujourd'hui.
C'est pas parce que c'est mieux que c'est bien, ceci dit.
C'est important de le dire.
Oui, non, mais tout à fait.
C'est important de le dire. Alors Ingrid qui est là, bonjour Ingrid, vous appelez Vannes, vous habitez Vannes, que me dit-on ? Ingrid, bonjour. Ah oui, Ingrid, c'est pas du tout par rapport à Alice Coffin. Pardonnez-moi. C'était par
bonjour
rapport à Emmanuel
Ingrid,
Macron.
Bonjour.
Non, mais excusez-moi. Alors, sur les habits, c'est très rigolo ce que vous écrivez. Les hommes portent les vêtements du pouvoir, les vêtements de l'imposture, les vêtements de l'universel. Je vous assure, je lisais ça hier soir, je souriais souvent parce que... contre les vêtements du singulier. Ils agissent sous les habits de la neutralité. Le neutre, c'est eux dans leur costard. Le singulier, c'est une robe à fleurs de la couleur. Lors d'un mariage auquel j'assistais, il a été demandé aux convives de former une chorale avec deux groupes différents, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Je regardais la scène à quelques mètres de distance. Sur la pelouse, les blocs tranchaient abruptement. L'un, celui des femmes aux atouts vert, jaune, rouge, rose, éclaté par des couleurs très diverses. L'autre, celui des hommes aux vestes bleu marine ou grise, unis par la monochrome. Lorsqu'une femme porte en public les mêmes vêtements qu'une autre femme, c'est de la catastrophe, le ridicule. Les hommes, eux, souvent, sont 15 à avoir le même costume. Oui, mais ça, c'est vrai dans l'Occident, mais c'est pas vrai dans toutes les sociétés.
Non, c'est vrai que je parle du contexte français, hein, moi surtout. Ouais, hein,
parce qu'en Afrique, par exemple, où la, vous tirez là une conclusion sur les vêtements. En Afrique, où la société est très patriarcale, bah, les hommes sont habillés sans costume et parfois de manière très colorée, très diverse.
On les traite de la société française, effectivement, avec des comparaisons plutôt avec la société américaine, d'ailleurs. Mmh. Donc, voilà.
Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors là, il y a une élection présidentielle, par exemple, qui arrive.
Oui, ben, voilà ce qu'il faut faire.
J'irai peut-être pas jusque-là, je veux bien être un peu déconstruit. Vous m'avez pas vraiment répondu ce qu'est un homme déconstruit. J'ai pas été. Mais non, mais c'est vrai, vous m'avez pas vraiment répondu. J'arrive pas à savoir ce que c'est.
Déconstruit, ça veut dire que qui a enlevé toutes les couches, c'est justement de dire c'est pas à cause de sa nature, de son corps que les hommes sont comme ça, c'est à cause de tout ce qu'on leur a mis comme couche de représentation, d'imaginaire, et qu'ils s'en sont un peu distancés, qu'ils ont compris toutes ces constructions, justement des constructions, ça veut dire qu'il va contre toutes ces constructions qui sont sédimentées et qui font qu'à un moment on ne voit même plus l'évidence, c'est-à-dire on ne voit même plus que bah, évidemment que c'est beaucoup plus simple dans cette société d'être un homme qu'une femme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et ça, il y a plein d'hommes, ils ne s'en rendent pas du tout compte, ils ne sont pas du tout lucides là-dessus. Donc être déconstruit, c'est simplement avoir conscience de ça aussi, l'avoir compris.
Vous êtes très dur d'ailleurs sur les féministes d'une ancienne période, Catherine Deneuve, Anne Sinclair, c'est assez rigolo d'ailleurs. On finira avec ça dans une minute, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est une émission un peu particulière, on va terminer avec Alice Coffin. Vous avez vu que je ne vous ai pas parlé de l'écriture inclusive, qui est juste, à mes yeux, Alice Coffin, une horreur. Et je n'ai toujours pas compris en quoi ce serait servir la cause des femmes que d'écrire dans ce charabia qu'est l'écriture inclusive, qui déconcerte les gosses de 10 ans, qui s'y perdent et qui est refusée par l'Académie française.
Vous avez réussi à bien lire mon livre.
Oui.
Vous avez vu que j'emploie pas beaucoup de points ou de...
Jamais,
et
vous
pourtant,
avez raison.
Il est écrit en écriture inclusive. Parce que c'est pas que ça. En fait, je pense que vous le résumez aux petits points comme qui arrivent. Non. Et donc, c'est des formulations qui permettent de pas seulement désigner...
Mais très bien, moi, ça me va, ça. Si vous enlevez les petits points, ça me va.
Je suis pas sûre que vous soyez complètement contre l'écriture inclusive, puisque si vous avez bien aimé le livre, en réalité, il est écrit en écriture inclusive. Bah,
je suis contre les petits points, comme vous dites, de changer l'écriture, et surtout pour ceux qui l'apprennent, de les décontenancer au point où, je pense... Alors, il y a eu des études là-dessus, les gosses qui sont dyslexiques, etc., ils s'y perdent.
Non, bon, moi, je suis pas contre les petits points, mais vraiment, l'écriture inclusive ne se résume pas du tout aux petits points. C'est vraiment une manière. Et je pense qu'en fait, si vous avez bien aimé le livre, c'est que vous êtes même plutôt pour.
Bon, j'ai bien aimé le livre parce que j'ai essayé également de vous comprendre. Et puis la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est que c'est dans les milieux de gauche, curieusement, culturels, que vous avez le plus de mal.
Oh là là, oui.
Et ça, c'est très intéressant.
Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. En fait, quand on vient dénoncer une surproportion d'hommes dans certains lieux et tout ça, je vous assure que les milieux de droite, hein, ou les milieux financiers, nous reçoivent mieux que les milieux de gauche ou culturels. C'est-à-dire que les milieux de droite ou de la finance et tout ça, ils ne sont pas d'accord avec nous, hein, ils nous le disent. Mais ils ne nient pas l'évidence. Ils disent, oui, vous avez raison, c'est comme ça. Peut-être ils s'en foutent, peut-être, mais ils ne nient pas. Ce qui est terrible, quand on se rend dans les milieux cinéma, théâtre,
on pourrait imaginer que c'est là précisément que vous avez le meilleur accueil.
Eh bien, pas du tout. Au contraire, c'est là où c'est le plus dur, en fait, de faire passer le message, parce qu'ils estiment, ils disent, non, non, vous vous trompez de cible. Pas nous, mais nous. On est les plus grands, on est pour le progrès, on est pour les femmes, on adore les femmes. Il y a pas. Et donc, ils refusent. Et c'est là où je crois qu'on a un problème massif aussi. Et c'est pour ça que je vante un retour d'un réel discours de gauche. Parce que ça, pour moi, c'est pas un discours de gauche. Des gens qui sont pas capables de voir que, bien sûr que oui, qu'ils exercent autant le sexisme qu'ailleurs, qui sont pas parce que de gauche, parce que dans la culture exempte de sexisme et de racisme, bah pour moi, ils dévoient justement ce discours-là. Donc il est temps... Sandrine Rousseau, je termine là-dessus. Non, et surtout, merci de m'avoir invité. En fait.
Bah non, merci. Vraiment, moi, merci je trouve que c'est très intéressant de vous avoir écouté pendant une heure à 13h52. Je renvoie à votre livre, Le génie lesbien, Alice Coffin, c'est chez Grasset. Et puis après, chacun aura peut-être pu, non pas changer d'avis, mais essayer de faire un chemin. comme dit l'autre, et de comprendre les arguments des uns et des autres. Merci beaucoup à Alice Coffin. Sandrine Rousseau va être élue, c'est ça?
Sandrine
c'est
Rousseau
ce que vous pensez. C'est-à-dire que, a priori, ceux qui ont voté pour Piolle au premier tour et pour Bateau au premier tour, a priori, ces électeurs sont plus proches de Sandrine Rousseau que de Jadot.
Alors, l'arithmétique est avec nous, mais je pense que l'enthousiasme et le cœur est aussi avec nous. Donc, ça fait bonne équation.
Donc, ça va être, si c'est elle, la candidate la plus radicale des écologistes, alors que dans une présidentielle, elle est créditée moins que Jadot en intention de vote.
Je pense que le pays a précisément besoin d'un de discours vraiment représentatif de ce qui se passe et qui n'ont pas peur de cliver.
Bon, bah écoutez, merci, vraiment merci. Puis vous reviendrez avec plaisir, peut-être durant cette campagne présidentielle. Il est 13h53.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Parlons de la présidentielle avec Emmanuel Macron qui est à 46% d'opinion favorable. C'était un sondage BVA et on était tout à l'heure avec... on faisait une exégèse de cela tout à l'heure avec un des représentants de BVA. Nous sommes avec Ingrid. Bonjour Ingrid.
Rebonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Est-ce qu'il a plié le match? C'était notre question.
Pas du tout. Moi, je pense que c'est de la manipulation. Et là, c'est un gros coup de communication qu'il est en train de nous faire, Monsieur Macron.
Pourquoi vous dites un coup de com'? Parce que c'est pas lui qui décide, hein. C'est les sondages qui le mettent en opinion favorable.
C'est les sondages. Moi, j'aimerais réellement savoir qui a été sondé, quel panel, combien de personnes.
Est-ce que vous y croyez pas?
Et est-ce que si on refait le même sondage dans un mois, dans deux mois, est-ce que ce sera le même panel de personnes qui seront interrogées ou pas?
Ben, ça sera un panel comparable, mais ça ne seront pas les mêmes gens. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous ne croyez pas au sondage? À ce sondage?
J'y crois pas par rapport au mois de communication que monsieur nous fait, son mois d'annonce. Quand on voit qu'il a commencé le week-end du 10-12 septembre, 1 million de tracts en disant 50 plus, ça veut déjà tout dire. Là, il distribue des millions pour les sages-femmes. Hier, c'était pour les aides à domicile. Mmh. Là, ce midi, aux informations, c'était pour ouvrir encore plus d'espaces France Service où M. Castex se déplace. Donc là, on est en plein effet de communication pour se redorer le blason. Mais je ne crois pas que toutes les personnes qui étaient dans les gilets jaunes ont oublié ce qui s'est passé. L'affaire Benalla, tout ce qui s'est passé depuis le Covid. Est-ce que ces gens-là ont vraiment une opinion positive par rapport à M. Macron? Alors une opinion positive, pour moi, effectivement, c'est pas une intention de vote. Mais j'ai l'impression que c'est de la manipulation pour dire il est remonté dans les sondages, donc allons-y, votons pour lui. Et justement, comme vous dites, il a plié le match.
Bah, c'est toujours délicat de vous répondre parce que c'est factuel. Donc vous, manifestement, vous êtes plutôt anti-Macron. Donc vous avez du mal à penser que...
Je ne suis pas pour lui. Voilà, je n'ai pas une opinion favorable, mais j'aimerais savoir quelle question a réellement été posée aux gens qui ont été sondés dans le panel.
Oui.
Vraiment savoir, pour qu'ils leur sortent, qu'ils ont une opinion positive. Oui. En quoi l'opinion est positive par rapport à tout ce qui s'est passé aux événements que je vous ai relatés?
Bah, c'est 6 points en un mois, c'est donc le résultat de ce baromètre BVA Orange RTL. On était avec Édouard Le Cerf tout à l'heure, qui est le directeur général adjoint de BVA. C'est donc, c'est assez simple. Hein. Est-ce que vous avez opinion d'Emmanuel Macron?
Que ce soit simple, je veux bien l'entendre, mais après, c'est quel est le panel?
C'est un panel représentatif des Français. C'est toujours la même chose, un sondage.
Quand on voit le nombre de personnes impactées toujours par la crise sanitaire, parce qu'elle est quand même loin d'être finie, je pense...
Et 70% des gens sont pour le pass sanitaire.
Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis totalement pour. Ah, ça, je peux vous le dire. Et mon compagnon est médecin urgentiste, donc je suis pour le pass sanitaire. Mais ça m'étonnerait que ce soit les personnes qui sont obligées de se faire vacciner qui donnent une opinion positive. Ça m'étonne que ce soit... Toutes les personnes qui étaient dans les gilets jaunes, moi j'en faisais pas partie, mais chacun son opinion. Ça m'étonnerait aussi que toutes ces personnes-là aient une opinion positive. Donc j'aimerais savoir vraiment la constitution d'un panel. Parce qu'un panel, c'est bien de le dire, c'est représentatif, mais c'est représentatif de qui? Est-ce qu'on allait dans les zones rurales? Est-ce qu'ils sont mis devant des bureaux de la République en marche, des permanences pour aller faire leur sondage? Je ne sais pas. Et c'est ça qui m'interroge.
Mais les méthodes sont toujours les mêmes, Ingrid. Alors, je vous propose, parce qu'il est 13h57, et vous le savez, tous les jours, notre ami Jean-Alphonse Richard vient nous donner le programme de l'heure du crime qui commence à 14h30.
Salut Pascal.
Bonjour Jean-Alphonse, le programme.
Aujourd'hui, les secrets du légionnaire Francisco Benitez. Sa femme et sa fille disparaissent le 14 juillet 2013. Il va évidemment devenir le suspect numéro 1, on s'en doute. La dernière personne à les avoir vues vivantes, c'est ces deux femmes. Mais surtout, on va découvrir tout de suite les doubles vies de Francisco Benitez. C'est un véritable labyrinthe. On finit par s'y perdre. Il a des maîtresses dans tous les coins. Et puis autour de lui, des femmes qui ont disparu. Sans laisser de traces, ce qui est pour le moins curieux. Hélas, Benitez, il va pas pouvoir s'expliquer puisque il va très rapidement se suicider. Mais l'enquête va continuer et enquête qui abonde de surprises.
Quand vous nous racontez ces histoires, ce qui est frappant, c'est que souvent la victime a été tuée par un de ses proches. C'est ça la réalité.
C'est dans 80% des cas, ce sont des proches. Ouais. Et c'est pour ça que les policiers d'entrée s'intéressent toujours aux proches. Parce que dans la majorité des cas, c'est un proche qui est le meurtrier.
Donc, mesdames, messieurs, surveillez vos proches.
Exactement.
Aujourd'hui.
Gardez-les à l'œil.
C'est rassurant ce que je vous dis là, 13h58. Mais surveillez vos proches. On sera avec Olivier, peut-être, qui aura eu sûrement des réactions du témoignage d'Alice Coffin sur la page Facebook. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs en la.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Plusieurs personnes arrêtées ce matin après une tentative ratée de braquage. Un fourgon de transport de fonds a été pris pour cible sur une aire d'autoroute au sud de Lyon. Les malfaiteurs ont tenté de bloquer le véhicule qui transportait des billets et des métaux précieux, mais les convoyeurs ont réussi finalement à s'en sortir indemnes. À Paris, l'évacuation des jardins d'Éole est désormais terminée. Les toxicomanes ont été transférés par bus dans une autre zone du nord de Paris. L'opération de police a duré plusieurs heures ce matin. Les toxicomanes ont été emmenés derrière le périphérique Porte d'Aubervilliers. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez espère que la justice italienne donnera son feu vert à l'extradition de Carles Puigdemont. L'indépendantiste catalan a été interpellé à son arrivée en Sardaigne hier. Il vit en exil depuis 5 ans en Belgique, depuis la tentative de sécession. Le président du club de foot d'Angers fait l'objet de deux nouvelles mises en examen. Saïd Chaban est déjà poursuivi depuis 2020 pour violences sexuelles aggravées après les plaintes de 4 jeunes femmes, salariées ou anciennes salariées du club. Lionel Messi encore forfait pour le match face à Montpellier samedi. L'attaquant argentin est toujours blessé au genou. Un nouveau point média sera fait dimanche, deux jours avant le choc en Ligue des Champions contre Manchester City. La météo demain. Demain, toujours chaud, mais beaucoup moins beau. Des orages éclateront sur une large moitié ouest. Quelques averses pourront aussi se déclencher en seconde partie de journée dans le sud-est. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le soleil, bien que très voilé, se maintiendra dans le nord et dans l'est. Quelques températures à vous donner pour ce samedi. Dans la journée, il fera 24 à Verdun, 25 à Limoges, 27 à Bordeaux ou encore 29 à Albi. Les pronostics de Dominique Cordier pour les courses à Vincennes ce soir, les voici. Le 14, le 2, le 13, le 3, le 12, le 11 et le 6, dernière minute, le 2. Foxy Lady Yonki, il est 14h03 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Merci Ingrid. Vous êtes donc très circonspecte sur les sondages tels qu'ils sont faits. Vous ne croyez pas beaucoup aux
là,
intentions.
J'aimerais apporter une précision si vous acceptez.
Mais je vous en prie, Ingrid.
Enfin, avec tous les éléments que je vous ai donnés, moi, ce dont j'ai surtout l'impression, c'est qu'on est très proche et en même temps encore très loin de l'élection présidentielle. Mais je trouve que ce type de sondage, il va démobiliser certaines personnes. Parce que quand vous m'avez dit le mot tout à l'heure, est-ce qu'il a déjà match plié, je pense que ça va encore augmenter l'abstentionnisme. Parce que certains vont se dire, ils vont peut-être pas faire la différence entre opinion positive et intention de vote. Ils vont se dire, s'ils sont tous d'accord, ça sert à rien qu'on aille voter parce que notre candidat ou celui-là ne sera jamais élu ou il y aura jamais un autre second tour que celui que tout le monde, prétend déjà. Donc, c'est ça que je trouve dommage, c'est de mettre autant le point là-dessus en disant Monsieur Macron, le président en place, a plus de points que ses prédécesseurs à la même époque, et il en a même autant que juste après son élection.
Eh bien, merci.
Je trouve qu'on fait un rapprochement un peu trop rapide et trop court et il ne faudrait pas qu'il y ait de l'abstentionnisme à cause de tous ces sondages.
Eh bien, merci beaucoup. 46% d'opinions favorables, c'est beaucoup plus que ses prédécesseurs. Vous l'avez dit à la même époque. En 2011, Nicolas Sarkozy était à 32% d'opinions positives. François Hollande à 18% en 2016. Donc, ça nous intéresse forcément parce que ça veut dire quelque chose. Bonjour Francis.
Bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes enseignant à Nancy, est-ce que vous êtes convaincu?
Alors, comme l'a dit votre auditrice précédente, un sondage n'est qu'un sondage, surtout à 7 mois d'une élection.
C'est d'ailleurs un baromètre, plus qu'un sondage. Hein, c'est le baromètre mensuel BVA Orange pour RTL.
Oui, alors un jour je déjeunais avec un ami sénateur qui me disait le résultat d'un sondage est le résultat escompté par celui qui le paye. Donc,
là, c'est RTL qui l'a commandé, donc c'est pour RTL.
C'est RTL.
RTL n'a pas de candidat, a priori, ou alors je ne suis pas au courant.
RTL soutient Macron, non, c'est pas possible, Pascal. Ne nous embarquons pas là-dedans.
Je pense que non, ça, je vous assure. Je pense que RTL ne soutient pas Emmanuel Macron.
Si on me pose la question, êtes-vous favorable à Emmanuel Macron?
Et RTL ne soutient aucun candidat. Vous comprenez bien, quand même. J'espère que vous êtes persuadé que RTL ne soutient aucun candidat, quand même.
Mais je connais votre impartialité, Pascal.
Moi, par exemple, on pourrait imaginer, j'entends dire, alors vous êtes pro Zemmour, l'autre est pro ceci, pro cela, etc. Bon, RTL, c'est une station qui n'est pas engagée de cette manière-là dans la vie politique.
Oui, oui. Évidemment, comme tous les médias, d'ailleurs, tout le monde le sait bien. si on me pose la question, êtes-vous favorable à Emmanuel Macron? C'est une question qui ne veut rien dire pour moi, parce que je suis favorable par rapport à quoi?
Non, c'est pas favorable. La question, c'est est-ce que vous avez une bonne, très bonne opinion de lui? Par exemple, vous poserez la question, est-ce que vous avez une bonne, très bonne, mauvaise, très mauvaise opinion d'Emmanuel Macron? Vous répondez quoi?
Ça dépend. Si je parle de sa politique sanitaire, j'ai une très mauvaise opinion. Si je parle de sa politique en matière de creusement des inégalités, très mauvaise opinion. Si je parle de ce qu'il représente quand il est dans les réunions internationales, c'est pas pire qu'Hollande, c'est pas pire que Sarkozy, c'est pas pire que... Voilà, donc ça dépend de sur quel plan on se place. Moi, je pense que il nous manque quelque chose dans notre démocratie. Tout le monde parle de république, de démocratie. On l'a vu hier soir dans le débat Zemmour et Mélenchon qui en avaient vraiment plein la bouche. Démocratie, république, etc. Ce qui nous manque, c'est un tableau d'indicateurs, comme dans une entreprise, où on dirait, quand le type est arrivé au pouvoir, il y avait tant de chômeurs, il y avait tel niveau de pollution, il y avait tant de mètres carrés de bureaux disponibles, il y avait tant... Enfin voilà, on met en place des indicateurs... une vingtaine, une trentaine d'indicateurs. Et puis quand il s'en va ou quand il veut se représenter, on fait le bilan. On ne fait jamais le bilan, que dans du...
Mais c'est les électeurs qui font le bilan. Quand ils ne réalisent pas Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils considèrent que les indicateurs ne sont pas, passés au vert. Ils considèrent à la fin du quinquennat, il y a plus de chômeurs qu'au début du quinquennat, donc ils pensent que ce n'est pas une réussite.
Non,
ce travail.
Non, depuis 2002, Pascal, vous n'êtes pas naïf et vous le savez très bien puisque vous le dites dans certaines de vos émissions que je regarde le soir. On fait du dégagisme depuis bientôt 20 ans, en 2022,
Personne n'a réussi.
Oui, mais on fait du dégagisme sur des critères qui ne sont pas les critères que chaque Français pourrait utiliser.
Le critère de l'emploi, c'est un critère qui est, disons-le, qui est partagé par tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un président de la République pour le moment qui a fini son mandat avec moins de chômeurs qu'il ne l'avait commencé.
Ni avec moins de dettes que quand il avait commencé.
Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué d'être réélu.
Oui,
parce que qui arrivera à faire baisser le chômage, il a quand même une probabilité, une chance d'être élu plus importante. C'est pour ça que le dégagisme, autrement, les gens... Par exemple, Merkel, elle a été reconduite, elle part ce week-end, mais elle a été reconduite pourquoi? Parce que sa politique a réussi?
Elle a été surtout réélue parce qu'elle a bénéficié de circonstances extérieures, notamment l'arrivée, quand elle a été élue en 2005, l'arrivée des pays de l'Est en 2004, qui ont permis à toutes les entreprises allemandes
quelles que soient les raisons. Francis, je vous coupe parce que Olivier, vous savez, notre ami Olivier. Olivier, notre ami, c'est Damien qui a dit. Enfin, Olivier est effectivement une des nouvelles voix d'RTL.
Mais ça fait un petit moment.
Ça fait un petit moment, depuis le 23 août.
Oui, c'est vrai.
Vous commencez dans la carrière,
un mois
quand même.
Un jour.
Donc, voilà. Donc, vous êtes l'homme de Facebook.
De Facebook, j'espère que je vais rester
jusqu'à
la fin de l'année.
Vous êtes Monsieur Boubou, que vous appelle Laurent Tessier, ce qui n'est pas très élégant. Je trouve là, je vous devriez peut-être dire quelque chose.
Vous l'avez validé pourtant, Pascal.
Non, je n'ai pas. Laurent Tessier a une autonomie très grande.
c'est vrai. Bon, Pascal.
En plus de sa qualité naturelle.
Ah oui, mais il a beaucoup de qualité. Pour Elisabeth, sur nos réseaux sociaux, donc Pascal, je lis les commentaires sur nos réseaux sociaux à l'avenue d'Alice Coffin. À l'avenue d'Alice Coffin dans notre émission. Donc pour Elisabeth, Alice Coffin a une vision de société qui l'inquiète. C'est une guerre des sexes, nous dit-elle. Franck est sceptique sur notre page Facebook. Un jour, les hommes et les femmes n'oseront même plus travailler ensemble, selon lui. Charlotte, quant à elle, nous écrit, Alice Coffin porte des idées qui n'existaient pas dans le débat public. Elle fait avancer les choses. Grâce à elle, les hommes se remettent en question.
Est-ce que vous êtes déconstruit, Olivier ?
Mais écoutez, je pense, Pascal, je suis mais je suis loin des clichés de l'homme qui va vite sur la route, par exemple. J'ai peur quand je suis à 90 km/h. Donc bon, ça fait partie de la déconstruction.
C'est important. Et j'ai essayé. Alors, elle a donné une définition assez précise de ce qu'est la déconstruction. Est-ce que vous êtes un homme déconstruit, cher Damien Béchiot ?
Je ne sais pas, Pascal.
Bah, écoutez, il faut y travailler, en tout cas. On va marquer une pause et on est sur Emmanuel Macron. C'est vendredi. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire ce week-end. C'est le premier week-end d'automne. Est-ce que vous allez aller à la châtaigne, peut-être ?
Non. Je pense qu'Olivier va aller à la piscine, encore une fois.
Ah oui, et au musée du Louvre, c'est important.
Ah, encore. Écoutez, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Francis, nous étions avec Francis, on va peut-être conclure avec lui, même si je soupçonne dans votre analyse de penser que tout cela est un peu, tout ça est un peu orchestré, c'est ce que vous voulez dire, voilà, que les sondages...
Vous avez compris qu'on était cette fois dans une campagne présidentielle choc, radicale. Regardez la place que Zemmour prend avec des propos radicaux qu'on défend ou qu'on ne défend pas. Regardez la primaire des écolos où tous les sondages donnaient Éric Piolle et Jadot en finale. Finalement, on se retrouve avec Sandrine Rousseau. Et pourquoi Sandrine Rousseau ? Parce que Sandrine Rousseau a un discours radical. Donc, on rentre dans la radicalité. Et ce sondage à 46% qui sort au bon moment, parce que là, on ne parle que de Zemmour entre Paris Match et je ne sais pas quoi depuis des jours et des jours. Ce sondage qui sort en bon moment, c'est un choc. 46%, vous vous rendez compte, il a été élu avec 18% des inscrits.
Oui, mais arrêtons ça, 18% des inscrits. Moi, je ne veux pas dire que ça me fatigue. Il a été élu. Voilà. Il a été élu dans un deuxième tour. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce que je trouve que c'est toujours à moins de rire le vote des Français que de dire ça. Au fond, en sous-texte, ce que vous dites, c'est qu'il y a 80% des gens qui n'ont pas voté pour lui.
Bon. Oui.
Ils avaient qu'à se déplacer. S'ils ne sont pas contents,
Non, ils ont réfléchi, ils ont compris que se déplacer ou ne pas se déplacer, ça ne changeait pas grand-chose.
Et à ce moment-là, alors ils n'ont pas la parole à mes yeux. Si tu ne te déplaces pas, ne viens pas chouiner après. Voilà.
Ah ben voilà un discours radical qui correspond à ce que je viens de vous dire.
Écoutez, si vous ne vous déplacez pas au vote, après ne venez pas parler. Dans les sociétés représentatives, moi je ne connais pas d'autre système dans les sociétés représentatives que des candidats qui se présentent et puis des gens qui votent pour eux.
Ok, alors je vais vous donner l'argument tueur qui va tuer complètement votre propos. 2005, la France se déplace massivement, 75% de participation. Après des mois et des mois de conférences, de sites internet, de blogs, etc., de livres sortis contre ou pour le traité constitutionnel européen, les Français votent massivement 55% contre. Et on leur dit, c'est pas grave,
Raison, Francis. Et c'est un traumatisme. Voilà. C'est un traumatisme dans la démocratie, puisque ça revient sans arrêt avec les auditeurs. Vous avez complètement raison. Et que ça a été une erreur importante de notre pays, de notre démocratie, de ne pas avoir entendu le peuple. Et effectivement, on en paye les conséquences. Vous avez 100% raison. Puisque tous les jours, il n'y a pas une journée sans qu'un auditeur le dise. C'est très intéressant, cette affaire de consultation et de référendum qui n'a pas été écouté. Puisque tous les jours, les auditeurs le rappellent. Merci Francis, bonne journée, bon week-end. Jean-Michel,
bonne journée Pascal.
Jean-Michel, qui habite Vienne. Vienne en France.
Bonjour Pascal. Non, j'habite pas Vienne. J'habite pas Vienne en France. J'habite dans le département de la Vienne.
Ah, vous appartenez
dans le village de Prayssac, dans le sud de la Vienne.
Bon, comment ça va?
Bah écoutez, il fait beau.
Ah ben ça c'est la meilleure nouvelle de la journée. Bon, on parle du sondage de Macron.
Oui.
46%. Alors, c'est vrai que ça te quoi parfois étonné parce qu'il est beaucoup attaqué et puis à l'arrivée il ne fait que monter dans les sondages. Donc il y a des gens qui disent il y a un truc qui ne va pas.
Je pense que le fait qu'il soit bon dans les sondages est lié au fait qu'on sort d'une crise comme on n'en a jamais connu et ça a été particulièrement traumatisant. Le fait de sortir de cette crise donne quand même un peu de perspective. Les gens sont contents de pouvoir retrouver une vie comme avant. Et je pense que ça joue dans le sur un peu sur la forme, au moins sur le jugement des Français d'Emmanuel Macron. En revanche, sur le fond, c'est pas gagné pour lui parce que on a une situation économique absolument épouvantable. Et donc, à un moment ou à un autre,
elle
après
est
la
que
joie
prévue,
du feu
hein,
d'artifice...
Sûr. Vous dites épouvantable, c'est marrant ce que vous dites, parce que la croissance repart, par exemple, et elle est très haute.
Alors, la croissance repart, mais comment on va faire pour récupérer les 100 milliards d'euros que l'État a empruntés au début de la crise et qui sont sur les comptes épargne des Français? Alors, tous les Français qui ont un compte épargne bien garni par cet argent un peu trop généreusement distribué, eux, ils peuvent voir peut-être la vie en rose. Il n'empêche que tous ceux, notamment les chefs d'entreprise qui cherchent des salariés et qui n'en trouvent pas, et puis les salariés qui sentent que leur activité est menacée parce que l'entreprise ne veut pas tourner au régime où elle devrait pouvoir tourner, ça va à un moment ou à un autre peser dans la balance. Vous savez, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'Angela Merkel. Angela Merkel, elle a commis des fautes. Emmanuel Macron a commis des fautes également. Mais ça, tous les présidents commettent des fautes. La différence entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, c'est qu'elle a un pays en pleine croissance, où ils ont un excédent commercial et où tout le monde a du boulot, quasiment, alors que nous, on est un pays très endetté, qui creuse encore son endettement, avec du chômage qui ne se résout pas. C'est incroyable, on a besoin de travailleurs et on ne trouve pas de travailleurs alors qu'il y a beaucoup de chômeurs. L'État français, et notamment Emmanuel Macron, qui est issu d'une génération dont la formation était de gérer l'État, l'ENA, c'est ça, ne réussit pas à résoudre ce problème. Donc ça va
finir... Et on va prolonger notre discussion, Jean-Michel, tout de suite après la pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le débrief, ça va être dans une minute, mais on termine juste avec Jean-Michel. Jean-Michel, vous avez quelques secondes pour conclure sur Emmanuel Macron, qui a des bonnes opinions dans les baromètres et les sondages.
Les bonnes opinions actuelles, puisque le sondage c'est une photo d'aujourd'hui ou d'hier, c'est lié à une circonstance ponctuelle, la fin du confinement. Toutes les données économiques qui sont quand même pas favorables.
Donc vous êtes inquiet pour le printemps, vous pensez que ça va pas continuer?
Je pense dans tous les cas que Emmanuel Macron risque de perdre les élections parce que c'est pas les candidats qui manquent, hein.
Oui,
l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche.
Oui, mais il en faut un.
Ah ben attendez, chacun.
En deuxième tour, qui le battrait?
Je ne sais pas.
Eh oui,
Il y a des tas de primaires qui ne sont pas finis. Ouais. Mais sincèrement, je trouve que le bilan d'Emmanuel Macron est si facile à combattre.
D'accord.
Si on compare avec la situation allemande, Jean-Michel, qui est similaire.
Eh ben, je vous remercie beaucoup, je suis obligé de vous interrompre.
Merci à vous, Pascal.
Mais non, merci à vous. Je sais que je joue un rôle parfois qui n'est pas agréable parce que c'est mal élevé de couper la parole, comme on disait quand on était enfant. C'est mal élevé. Mais je suis obligé de le faire parce qu'il est 14h23 et l'excellent Laurent Tessier arrive pour le débrief.
Ah, j'étais concentré aujourd'hui.
Mais oui, je ne vous ai pas vu aujourd'hui, vous n'êtes pas venu me parler, rien du tout.
J'étais dans ma petite cabine à vous écouter religieusement.
Ah oui, mais bon, religieusement.
Toujours.
Ah bah c'est important la religion. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Aujourd'hui, dans Les auditeurs ont la parole.
Féministe, écologiste, conseillère de Paris, Alice Coffin, était votre invitée ce midi. Et vous aviez, Pascal, une mission en ouverture.
On va essayer de vous comprendre. C'est jamais simple de comprendre l'autre.
Et Alice Coffin est arrivée très en forme dans le studio.
Ça va mon vieux, bonjour mon vieux.
Ben oui, une bonne ambiance. Mathéo a été le premier à intervenir, même pas peur d'Alice Coffin.
J'ai pas peur d'Alice Coffin, même si ce qu'elle dit peut sembler effrayant.
Bon, Thierry a tenté une petite blague, il fallait oser.
Alors déjà, on a un point commun tous les deux avec votre invité, c'est qu'on aime les femmes.
Ah, je sens que Thierry est chaud, il est lancé, on ne va plus l'arrêter.
C'est factuel, il y a des choses qui sont plus habilitées aux femmes qu'aux hommes, et réciproquement. Je m'explique.
Ça commence mal. Travail.
Alice Coffin est revenue sur toutes les polémiques qui ont pu l'entourer. Faites entrer l'accusé. Avec un message qu'elle a tenu à rappeler.
Je ne suis pas en train de dire « parce que tu es un homme, tu es coupable ». Pas du tout, c'est justement d'expliquer. Quand on généralise, pour pouvoir dire, c'est un système.
Autre précision, il fallait le dire sur l'antenne.
La déformation qui a été faite des propos, où moi je retrouve, y compris sous la plume de personnes censées être des intellectuels, tout ça, qui disent « elle veut éliminer les hommes ». Mais je n'ai jamais écrit ça.
Non, sinon, vous vous inquiétez pour votre santé mentale, Pascal.
Est-ce que je suis déconstruit, moi?
Non, mais Pascal, je pense qu'il y a encore un peu de chemin.
Bon, alors tant mieux,
je suis pas...
Merci, docteur Coffin. Et vous avez aussi fait passer un petit message à vos camarades d'une certaine chaîne de télévision. Moi, que c'était nous.
Sur mon plateau, je le constate. Et les seuls qui m'appellent avant les émissions pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ton émission, c'est les femmes. Qui me disent c'est quoi le programme demain, etc. Les hommes, jamais.
À mon avis, tout le monde va bosser ce week-end. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson, bah oui, qui résume l'échange entre vous et Alice Coffin.
En tout cas, c'était très intéressant de discuter ensemble. Et il y a une phrase, moi, que j'adore, que je répète à l'envi, c'est « un ennemi, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas déjeuné ». Et quand tu parles avec quelqu'un, tu vois les choses différemment, tu comprends peut-être ses motivations, tu as accès à un autre angle de ta vue, et ça te permet peut-être de modifier, pourquoi pas, ta perception.
On n'a jamais déjeuné ensemble. Hein.
Mais c'est une demande. Nous dînons ensemble. Jean-Alphonse Richard.
Oui, mais Francisco Benitez, il déjeunait et il dînait avec son épouse et sa fille qui ont disparu.
Et donc,
forcément leur ennemi. Bon. Donc aujourd'hui, c'est Benitez, l'affaire Benitez, les secrets du légionnaire, un véritable labyrinthe intellectuel, des dizaines de maîtresses, des doubles vies partout. Et puis... des femmes qui disparaissent dans son sillage. Voilà.
Donc, on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Rendez-vous avec toute l'équipe des auditeurs, Damien Béchiot notamment, lundi. Et bonne émission, Jean-Alphonse.
Merci, à tout de suite.
RTL. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.